Bonjour et bienvenue dans Meilleur Allié, le podcast qui vous aide à vous sentir bien dans votre vie professionnelle en cultivant votre relation avec vous-même. Je m'appelle Marie Legac, je suis coach professionnelle certifiée et surtout j'aspire moi aussi à créer une relation complice et profonde avec moi-même. Ici, je vous parle de mes découvertes, expériences, lectures et réflexions pour qu'ils puissent peut-être créer chez vous aussi des prises de conscience et vous aider à concilier travail et plaisir. Retrouvez-moi en ligne sur meilleurallié.com et sur Instagram @meilleur.allié au féminin et sans accent pour découvrir des partages personnels ainsi que les coulisses du podcast et de mes accompagnements. Vous écoutez l'épisode 18, Entretenir l'épanouissement au travail sans se mettre la pression, seconde partie. Cet épisode est publié quelque temps après la rentrée de septembre, au moment où vous avez peut-être commencé à retrouver le rythme familier et intense de votre vie professionnelle. Peut-être que cet été, vous vous étiez fait la promesse de faire de votre épanouissement au travail votre priorité, avec plus de sens, moins de stress et plus de calme et de temps pour vous. Peut-être que cette promesse d'épanouissement et de sens commence à s'évanouir après avoir retrouvé la réalité de votre quotidien et que vous ressentez du découragement, de la déception et une forme de pression. Mon intention avec cet épisode en deux parties est de vous partager une vision de l'épanouissement et du sens au travail qui vous sera plus utile car source de légèreté, d'espoir et de curiosité pour vous-même. Pour cela, j'ai décidé de vous partager 6 pistes et de vous inviter à observer celles qui vous parlent le plus et font écho à vos ressentis et à vos pensées. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette thématique, je vous invite à commencer par celle-ci. Je vous y ai parlé de 2 freins qui génèrent de la pression. Le premier est qu'il existerait une définition consensuelle et universelle de ce qu'est l'épanouissement et que vous devriez juste avoir à appliquer une recette. Le deuxième frein est de penser que l'épanouissement et le sens sont des choses figées qui ne bougent plus une fois qu'on les a trouvées. Et que si vous les perdez, c'est bien le signe de votre éternelle insatisfaction. Ces freins créent pour vous de la pression, de la culpabilité et de la honte, ce qui, on peut en faire l'hypothèse, est bien loin de ce à quoi ressemble l'épanouissement au travail. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 autres fausses idées et quelles sont les pistes que vous pouvez en retirer. La troisième piste que je vous propose est, elle, liée à l'idée qu'il y a une seule manière pour vous de trouver l'épanouissement professionnel. Alors oui, c'est subjectif, oui, ça évolue dans le temps, mais du coup, s'il n'y a qu'une seule option, alors c'est une grande pression que l'on se met que de devoir la trouver. Le moyen le plus simple de faire baisser la pression quand on cherche le choix de carrière qui va nous épanouir, c'est de comprendre qu'il n'existe pas. Ou alors plutôt qu'il en existe plein. Le choix, l'unique, l'élu, the aiguille dans la botte de foin, n'existe pas. Et croire en une voie unique, c'est se mettre dans le même état d'esprit qu'une personne qui cherche où est Charlie dans un décor confus. Donc où est Charlie, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se rappellent pas de ce livre de leur enfance, c'est un livre dans lequel on a des paysages complètement confus avec une tonne de personnages et il faut trouver le bonhomme Charlie dans toute cette confusion. Et donc, quand on agit comme ça, on cherche surtout à éviter les pièges, les trompe-l'œil, les fausses bonnes idées et on élimine les autres personnages, les autres pistes en une microseconde. En fait, c'est un univers de vrai ou faux. Une démarche qui est bien plus utile, c'est de partir d'abord de vous. De vos besoins, de vos aspirations, de vos valeurs, de vos talents, puis de chercher avec curiosité et ouverture toutes les options qui sont compatibles. Certaines options le seront plus que d'autres et à différents degrés, donc ce sera aussi à vous de jauger selon vos critères, mais l'idée ce n'est pas d'abord d'éliminer tout ce qui ne correspond pas, c'est plutôt de chercher tout ce qui peut correspondre, et ensuite de faire éventuellement le tri si nécessaire. Et justement, dans le parcours « Mon job de sens » dont je parlais, puisque c'est à la base pour « Mon job de sens » que j'ai écrit cet article sur cette thématique, Donc il y a un parcours, et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce parcours, c'est l'étape des scénarios. Parce que c'est un exercice qui s'appuie sur le pouvoir de l'imagination et qui permet donc d'imaginer différents scénarios possibles pour sa vie future, des scénarios qui pourraient nous convenir, des scénarios dans lesquels on peut complètement imaginer, trouver tous les ingrédients d'épanouissement que l'on recherche. Et c'est la diversité des scénarios qui permet de ne pas se focaliser sur une seule option, mais d'aller chercher ensuite quelles sont les conditions à réunir et les options à explorer concrètement. On n'est pas dans une phase d'élimination, on est dans une phase de réunir les conditions qui contribuent à l'épanouissement. Et on peut alors évaluer ces options selon plusieurs critères, faire le tri et opérer des ajustements. Mais on passe d'une vision en vrai ou faux à une vision beaucoup plus nuancée dans laquelle il existe une marge de manœuvre. Donc cette troisième piste que je vous propose, c'est vraiment de réfléchir en termes d'options, quelles sont les différentes manières dont vous pourriez trouver du sens au travail, plutôt que de vous focaliser sur la seule piste unique dans laquelle vous pourriez trouver du sens. Voilà, ici on ne vous demande pas de trouver votre âme sœur unique parmi 7 milliards ou 8 milliards d'individus. Non, on vous invite à chercher quelles sont les compatibilités possibles. Voilà, si je peux me permettre un peu cette image. Je passe du coup à la quatrième piste. Cette quatrième piste consiste à alléger la responsabilité individuelle qui pèse sur vos épaules et à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Parce qu'une partie de la pression que l'on ressent vis-à-vis de l'épanouissement au travail vient aussi de l'idée qu'il ne tient qu'à nous de faire les bons choix et que le bonheur c'est quelque chose qui se décide et que finalement si on n'est pas épanoui c'est qu'on n'y met pas vraiment du sien. Comme si nous étions tous tellement acteurs et actrices de nos vies qu'il tient qu'à nous de prendre notre épanouissement au travail en main et à nous d'y trouver du sens, voire de le créer. Donc pour ça, on nous propose plein de choses, méditer, entreprendre, lâcher prise, se reconvertir, se faire coacher. On a le choix et il n'y a plus qu'à. C'est ce qui crée une illusion de toute puissance additionnée à une responsabilité purement individuelle. Pourtant, il y a quand même une partie de la vie professionnelle que l'on ne contrôle pas, ou alors très peu, et il s'agit de la culture d'entreprise, de l'organisation interne, de la stratégie RH, de la personnalité de nos collègues, de nos clients. Ça peut être des changements dans l'organisation, des changements dans la hiérarchie, et aussi les aléas de notre marché. Tout cela, c'est ce qu'on pourrait appeler nos circonstances professionnelles. Donc ce sont des circonstances neutres sur lesquelles nous n'avons pas d'action, mais sur lesquelles simplement nous avons des pensées qui peuvent nous convenir, ne pas nous convenir, et créer plus ou moins d'inconfort. Alors oui, nos pensées nous appartiennent, mais il se trouve quand même aussi que ne voir que cette manière-là d'aborder les choses, c'est complètement retirer l'idée qu'il y a aussi une responsabilité collective, une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de notre épanouissement au travail. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bien distinguer ce qui est sous son contrôle à soi et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est là qu'est notre véritable responsabilité. Il y a les circonstances, et puis il y a la manière dont on va aborder ces circonstances. La manière dont on laisse les circonstances influencer ou pas notre état d'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant accepter toutes les circonstances et que dans n'importe quelle circonstance, notamment au travail, on pourrait être épanoui et qu'il s'agit donc d'accepter tout et n'importe quoi en termes de situation. Je vous propose quelques secondes de philo avec cette citation de Marc Aurèle qui dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Et je suis convaincue qu'une part importante de l'épanouissement au travail repose donc non pas sur notre fiche de poste, mais sur notre capacité aussi à prendre du recul sur notre rapport au travail. C'est ce qui implique de savoir identifier les responsabilités qui sont extérieures à soi et donc de se dissocier d'elles, de bien prendre en compte quelles sont les responsabilités de son employeur, de son chef, de la société, des dirigeants politiques, du droit du travail, tout ce qui fait que nos circonstances sont ce qu'elles sont. Et donc, il y a toute une partie de nos vies qui est complètement hors de notre maîtrise et de notre contrôle. Et quand on l'accepte et que l'on arrête de lutter pour changer les circonstances, C'est aussi ça qui crée un véritable soulagement. Et on peut alors agir sur ce qui est vraiment de notre ressort pour s'approcher le plus possible d'un environnement qui nous convient et qui va nous épanouir. Sur une manière d'être, une attitude, un comportement au travail, une manière d'aborder les journées qui va peut-être nous être plus utile et en tout cas qui est de notre ressort. Donc cette quatrième piste en termes d'épanouissement professionnel, c'est de prendre de la distance avec les circonstances pour pouvoir être en mesure de mieux choisir ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on accepte finalement que c'est hors de notre contrôle et que donc c'est pas là que va être notre priorité d'action. Il arrive à beaucoup de personnes de s'épuiser justement au travail parce qu'elles entrent en forme de résistance avec des aléas sur lesquels elles n'ont pas du tout la main, et c'est ce qui va complètement les épuiser et grignoter toute leur énergie et tout le plaisir qu'elles peuvent éprouver au travail. La cinquième piste que j'ai envie de vous partager et qui est absolument fondamentale quand il est question d'épanouissement au travail, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas que le travail dans une vie épanouie. Ça peut sembler contre-intuitif, mais notre épanouissement au travail relève en grande partie de la place qu'il laisse aux autres rôles de notre vie. Parce que nous ne sommes pas que des travailleurs, et c'est essentiel de savoir aussi qui l'on est quand on n'est pas au travail. Parce que nous sommes aussi des parents, des amis, des enfants, des amoureux, des membres d'associations ou membres de collectifs, des artistes, des sportifs, des lecteurs, des jardiniers, des bricoleurs, des bénévoles, des voyageurs, des rêveurs, des personnes qui ont une vie spirituelle, des personnes qui font et qui sont bien plus encore que la sphère professionnelle. Quand j'ai connu l'inverse du sens et de l'épanouissement au travail, à un moment donné de ma vie, à savoir la sensation de vide et d'épuisement, j'ai compris que mon erreur avait été de mettre presque tous mes œufs dans le même panier, le panier du travail. Parce que quand on aime se sentir engagé dans son travail, animé et convaincu par le sens qu'on y trouve, ce qui est aussi une grande chance, il arrive qu'on a l'excès suivant qui consiste à mettre beaucoup de sa personne et de son énergie dans son travail. Et le surengagement et la fusion ne sont pas loin, parfois jusqu'à l'écœurement et jusqu'à la confusion sur notre propre identité. Et il arrive alors qu'on se sente complètement incapable de répondre à cette fameuse question « Mais qui suis-je en dehors de mon travail ?» On ne voit plus du tout les autres paniers. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 14 avec Aurélie Gzel, la créatrice de Rembobinette, qui parle aussi très bien, elle, dans son parcours, de l'importance, à un moment donné, d'avoir su cultiver différentes identités en dehors de son identité professionnelle. Et moi, je vois l'équilibre entre les différentes sphères de notre vie comme des paniers en osier dans lesquels on choisit de mettre plus ou moins d'œufs en fonction des moments de la semaine, de l'année et de la vie. Il y a peut-être des moments où le panier de la famille va être plus important à remplir et à préserver, puis d'autres moments de la semaine ou du mois ou de l'année où le panier professionnel va représenter plus d'œufs. Mais voilà, libre à chacun de déterminer le nombre et la taille de ses paniers, ainsi que la répartition de ses œufs, mais l'important c'est de ne pas oublier que tous ces paniers différents existent. Et le bénéfice, c'est qu'en investissant les autres sphères de sa vie, ça permet non seulement de cultiver sa liberté et son énergie, mais aussi d'éviter une relation de dépendance, de frustration ou de sacrifice vis-à-vis de son travail. Parce qu'il arrive que quand on sacrifie beaucoup des autres paniers de sa vie pour favoriser le panier du travail, on peut comme ça alimenter une espèce de ressentiment vis-à-vis de son travail. Et ça crée une relation qui est justement l'inverse de l'épanouissement, puisqu'on a la sensation de devoir sacrifier une partie de soi. Et c'est ça qui crée chez beaucoup de personnes une sensation de décalage et d'insatisfaction vis-à-vis de leur travail, même si au départ, elles l'appréciaient énormément. C'est aussi ce qui fait que quand j'accompagne une personne dans ses réflexions professionnelles, je ne mets jamais de côté la vie personnelle, parce qu'on ne peut pas se couper en deux, et les différentes facettes de notre vie s'influencent forcément les unes les autres. Et c'est important de ne pas se considérer comme quelqu'un de cloisonné qui, parce qu'on est professionnel, va mettre de côté complètement sa vie personnelle. Donc en résumé, la cinquième piste, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et bien se souvenir qu'une vie professionnelle épanouie, c'est une vie dans laquelle on cultive aussi les autres facettes de sa vie. La sixième piste que j'ai envie de vous partager, donc la dernière, très importante, parce qu'on a tendance à l'oublier ou à vouloir que ce soit autrement, il s'agit de comprendre que, quelle que soit notre manière d'aborder notre travail, on reste un humain qui navigue dans la vraie vie. Et ce dernier point est essentiel parce que la vie professionnelle, ça reste la vie, avec ses hauts et ses bas. Et oui, avoir un job qui colle bien avec notre définition du sens et de l'épanouissement, c'est vraiment une grande source de joie, de cohérence intérieure et d'enthousiasme. Vraiment un grand oui pour ça. Mais ce n'est pas pour autant un monde où tout se passe toujours bien, où on peut aider tout le monde, où les gens sont toujours sympathiques et sur la même longueur d'onde, où les réunions sont 100% efficaces, où on adore tous les lundis, où les to-do list entrent pile poil dans l'agenda, où nos problèmes personnels ne nous affectent jamais, où il y a du plaisir et de l'utilité dans toutes les tâches, où il n'y a jamais de frustration, jamais de peur, jamais de doute, où l'on se sent légitime, confiant et serein ou sereine en toutes circonstances, où notre chef est l'incarnation même de la bienveillance et où les collègues sont empathiques, écoutent activement nos besoins et ont conscience de nos limites. Ce monde-là que je viens de décrire, c'est un monde qui n'existe pas. Et je pense que vous le savez, mais parfois on a tellement envie qu'il puisse exister qu'on a l'impression que les jours qui sont des jours sans sont le signe que quelque chose ne va pas. En fait, les mauvaises journées, les doutes et les émotions désagréables font aussi partie de la vie professionnelle des personnes qui ressentent beaucoup d'épanouissement dans leur travail. On peut se sentir épanoui dans son travail, mais passer parfois de mauvaises journées. Et donc leur présence ponctuelle de ces mauvaises journées n'est pas le signe que quelque chose cloche avec vous et qu'il faut absolument changer quelque chose dans l'immédiat. C'est plutôt le signe que vous êtes un humain ou une humaine. Et c'est là toute la différence avec les photos aseptisées des banques d'images gratuites et avec les témoignages qui peuvent sembler complètement surfaits et dans lesquels il manque une partie de l'histoire. Il y a toujours cette idée de nuance qui est à prendre en compte. Les choses ne sont pas noires ou blanches, il y a aussi beaucoup de nuances entre les deux. En fait, c'est plutôt la récurrence ou la constance des moments désagréables qui est le signe que le moment est peut-être venu pour vous d'apporter du changement dans votre vie professionnelle et d'y mettre plus de sens. C'est uniquement si les journées désagréables se répètent trop souvent que vous pouvez vous dire qu'il y a quelque chose à changer. Sinon, si vous avez du mal à accepter qu'il puisse se passer des journées un peu moins agréables, un peu moins enthousiasmantes, un peu moins motivantes, c'est que vous êtes peut-être dans une démarche de perfectionnisme de vos émotions, une démarche de non-acceptation qu'il puisse y avoir des moments désagréables. Et dans ce cas, je vous invite vivement à travailler sur l'accueil de vos émotions et à considérer que les émotions ne sont pas un problème. Si vous avez besoin d'y voir plus clair sur votre situation professionnelle, notamment si les journées désagréables ou les périodes comme ça inconfortables sont monnaie courante, et si un accompagnement comme celui de Mon Job de Sens et avec toutes les pistes dont je viens de vous parler vous attire, sachez que chez Mon Job de Sens, et c'est mon cas aussi, on propose des rendez-vous découvertes pour pouvoir parler de votre situation et de vos besoins pour déterminer si c'est un type d'accompagnement qui peut être pertinent et judicieux pour vous. Et moi, je m'engage en particulier à vous parler d'humain à humain, pas comme une commerciale qui viendrait vous vendre des solutions miracles ou un processus révolutionnaire. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner de manière personnalisée dans un processus qui va vous amener à vous poser des questions, à mieux vous connaître, à explorer ce qui vous correspond et à commencer à avancer pas à pas pour que vous puissiez aussi être dans l'action. Mais l'idée, c'est pas du tout de vous promettre un processus révolutionnaire, simplement un processus adapté à vos besoins qui va pouvoir vous aider à faire émerger la personne que vous avez envie d'être au travail demain et à faire émerger les pistes d'action qui vont vous permettre d'y arriver. Donc je vous mets un petit lien par rapport à ça dans les notes de l'épisode avec mes prochaines disponibilités au retour de mon congé maternité. si vous avez envie qu'on puisse en parler ensemble. J'en arrive à ma conclusion, qui est que l'idée que l'on se fait du sens au travail ou de son cousin, l'épanouissement professionnel, reste profondément personnelle et peut évoluer dans le temps, et même va évoluer dans le temps. Moi, je suis convaincue que les changements à apporter à sa vie professionnelle n'ont pas nécessairement besoin d'être spectaculaires, immédiats ni drastiques. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. Au contraire, il y a plusieurs options possibles. Et ce sont donc les ajustements, les nuances, le lâcher-prise et la construction progressive qui ont aussi toute leur place dans ce processus. Et je souhaite qu'ils puissent vous aider, vous aussi, à aller au-delà des injonctions et des images toutes faites. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Je serais curieuse de savoir si certaines pistes ont résonné pour vous ou ont fait écho avec votre mode de pensée actuel. Et voilà, j'espère que cela vous aura aidé aussi à prendre du recul et à voir quelles pistes vous pouvez explorer pour vous. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, quelques secondes, je vous serais très reconnaissante de me les offrir pour laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et ainsi faire connaître le podcast à d'autres personnes autour de vous. C'est toujours aussi un grand plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à m'envoyer quelques mots. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Meilleur Allié.